Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Noël arrive à grands pas, et avant de pouvoir enfin se mettre tous autour d'une table bien garnie, peut-être êtes-vous passé ce week-end par l'étape décoration. Ou comment caser un sapin de 1m50 dans un appartement de 60m² déjà surchargé d'obstacles. Allez, c'est parti, on essaye. Vas-y Aline, pousse le canapé d'un mètre sur la droite, s'il te plaît.
D'accord, comme ça, là, c'est bien ?
Ouais, c'est bien, parfait. Décale un peu la table basse et le fauteuil, là, tu peux le mettre un peu plus à gauche, je pense.
Non, je pense que c'est pas une bonne idée. On va se prendre les pieds dans la table basse à chaque fois qu'on voudra aller au frigo. Ça va finir en croix dans le sapin, cette histoire.
Non, la croix, c'est pas Noël, c'est les boules. Tiens, mets la table sur le côté comme ça.
Oh bah non, tu parles, elle est en plein sur le chemin. On va se faire un orteil dessus à chaque passage et finir en boule sur le tapis surtout.
Vous avez remarqué comme chaque réorganisation de votre espace intérieur crée une sorte de dissociation. Comme si votre corps était en pilote automatique guidé par une mémoire dans laquelle se sont gravés de petits itinéraires domestiques, des axes principaux, des chemins, des déviations, dont nous ne prenons conscience que lorsqu'un obstacle impromptu révèle de façon souvent fracassante la mécanique de cette cartographie intime. Notre invité du jour est un peu le mage de la marche. Il s'est intéressé à nos déplacements intérieurs et notamment à la manière dont nous gérons les obstacles dans nos habitations, qu'il s'agisse d'une table ou même d'un bruit. Avec son équipe, il vient de publier dans la revue Frontiers un article intitulé « Les obstacles façonnent notre manière de marcher à la maison ». Avec nous en studio, Benoît Vardy. Bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Bienvenue dans Allume la science. Donc vous êtes chercheur au laboratoire Euromove Digital Health in Motion, c'est bien ça ?
Parfaitement exact.
Alors, roulez en boule sur le tapis, certes, mais avec moi quand même pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous partons pour un dernier tour à la SMEL et c'est son directeur Sébastien Mas qui nous présente la plateforme d'expérimentation en écologie marine Medimer. Enfin, notre invité de dernière minute sera Pierre-Emmanuel Millet, pardon, directeur du pôle biologie santé de l'Université de Montpellier. Il nous présente le symposium Young Scientist qui se tiendra le 14 décembre prochain sur le campus Arnaud de Villeneuve. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors pour commencer, Benoît Bardi, on va commencer de la base. Donc la marche, qu'est-ce que c'est pour l'être humain ? Comment on définit le fait de marcher ? Vous parlez de cycle de marche. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
Bien sûr, le cycle de marche, c'est cette alternance de pas que l'on fait, une fois à gauche, une fois à droite. Nos jambes sont coordonnées, nos bras sont coordonnés aussi avec nos jambes pendant qu'on marche. Il y a beaucoup de façons de décrire la marche de manière simple, mécaniquement. C'est cette alternance de phases d'appui et d'oscillation des jambes lorsque l'on avance. C'est ce qui différencie principalement de la marche avec la course, c'est cette phase de double appui. On a un moment où on a nos deux pieds en contact avec le sol. Et c'est un moment important parce que c'est ce contact avec le sol qui nous permet d'augmenter la longueur de notre pas, de la raccourcir, d'augmenter notre vitesse, notre cadence, notre orientation, changer les forces dès lors qu'on est en contact avec le sol.
Alors vous dites que l'étude de la façon dont on marche dans nos maisons ou nos appartements, nos intérieurs, c'est un domaine d'étude qui est relativement récent. Est-ce qu'il y en a beaucoup de la littérature scientifique sur ce sujet ?
Non. En fait, il n'y a pas de travaux, il y a très peu de travaux. Il y a quelques travaux un peu descriptifs dans des espèces de living labs où on a regardé un petit peu les gens marcher. Mais jamais vraiment quantifié, jamais vraiment dans des conditions soit expérimentales, soit naturelles. La marche a beaucoup été documentée dans la rue, dans les laboratoires de recherche, un petit peu partout dans le monde. Mais comment marche-t-on quand on est chez soi ? Il y a très peu de données.
Et marcher chez soi ou dans la rue, qu'est-ce qui change fondamentalement ?
Tout change quand on est à la maison. J'aimais bien votre introduction tout à l'heure avec le canapé, la table, le sapin qui bouge. Quand on est à la maison, d'abord on marche deux fois moins vite. En général, la vitesse de marche quand on est à l'extérieur, c'est à peu près 4-5 km/h, 1,5 m par seconde à peu près. On marche moins vite quand on est chez soi, bien sûr, parce qu'on est limité par l'environnement, les obstacles. Chez soi, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sapins, il y a beaucoup de tables, il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de meubles un petit peu partout. Et évidemment, ça réduit notre vitesse, mais aussi, surtout, ça oriente nos trajectoires locomotrices ici pour à la fois aller là où on veut aller, vers le frigo, vers la terrasse, vers la chambre, etc. Et en même temps, éviter tous les obstacles qui sont sur notre chemin.
Vous parlez de trajectoire curviligne dans votre publication, ça veut dire quoi ?
Alors c'est le mélange entre le linéaire, on est en ligne droite, et puis le circulaire, on tourne en rond. En général, dans la rue, on marche en ligne droite. Pas toujours, mais la plupart du temps, je ne sais pas, quand je sors d'ici et que je reprends le boulevard et que je vais ici vers la station de tramway, c'est plutôt en ligne droite. On marche rarement en cercle. Rarement, ça peut arriver dans certaines situations. Et le curvilinéaire, c'est le mélange un petit peu des deux. On a des portions de trajectoire qui sont circulaires et d'autres qui sont linéaires. Et chez soi, nos déplacements, ils sont par la présence des obstacles sur notre chemin, essentiellement curvilinéaires.
Alors, on se doute que vous ne vous êtes pas installé avec votre équipe chez les gens pour les regarder marcher. L'appartement dans lequel vous avez fait cette expérience, c'est un appartement connecté dans le cadre du programme donc UT, Human at Home. On en a déjà parlé plusieurs fois dans Allume la Science. Cette fois, l'appartement, il était vide de ses occupants, c'est ça ? Vous avez profité du laps de temps entre deux colocataires.
C'est ça, on a profité de l'été lorsque les locataires de l'année étaient partis et ceux de l'année suivante pas encore arrivés pour installer notre équipement scientifique au sein de cet appartement qui fait à peu près 80 mètres carrés, deux chambres, un grand salon, salle à manger, une terrasse pour cette étude. Oui.
Alors combien de participants et qui étaient-ils
On a donc c'était l'été, on était en pleine campagne Covid ici, oui. Entre nos deux confinements, on pouvait ressortir un petit peu, rappelez-vous.
Et ça va compter, ce contexte Covid, et on ça, va y revenir.
Et ça, ouais. Et ça va compter, et donc sur une période à peu près d'un mois et demi, avec toute l'équipe de Walk at Home, oui. c'est le nom de ce module dans le projet UT, composé de, il y a 2-3 laboratoires qui participent. Il y a Mélodie Sagnier qui est une étudiante de thèse, qui a fait sa thèse principalement sur ce projet, qui a mené toute cette étude avec les sujets. On a fait passer une quarantaine de personnes. On a sélectionné une partie pour l'étude parce que voilà, toutes les études ont un petit peu de rejet sur les personnes qui passent, on a perdu quelques données, etc. Et on a pris des gens, alors on ne les a pas attrapés dans la rue pour les faire venir dans l'appartement, mais des collègues de laboratoire, des étudiants, des gens du projet UT, on a pris les gens un peu qui étaient disponibles à cette période de l'été, avec des critères d'inclusion, comme on dit dans le jargon, qui sont très larges, qui vont de 18 ans jusqu'à 60 ans. On a pris vraiment tout venant.
Et alors, vous avez utilisé un système de capture de mouvement qui s'appelle Qualysis, c'est ça ?
Qualysis, c'est un système de capture du geste. En fait, imaginez, c'est un peu ce qu'on utilise dans les studios de cinéma là, pour faire des animations. Gollum a été fait avec ce système-là. Vous avez une vingtaine de caméras qui ont été disséminées dans la pièce principale de l'appartement. On n'a pas exploré les chambres, c'était juste dans la pièce principale, le salon, la salle à manger. Et des petits marqueurs que l'on pose sur les articulations du corps humain pour reconstruire ensuite à l'aide de ces caméras le squelette en 3 dimensions à très haute vitesse, complet, qui permet de mesurer donc ces déplacements locomoteurs. Et ce système, il est complété par un système qui existe dans cet appartement UT que vous avez mentionné, c'est le sol connecté. La technologie s'appelle un Sense Floor, c'est à peu près 800 capteurs qui sont disposés sous le plancher de manière complètement invisible et qui permet de détecter chaque contact. Chaque fois que l'on pose le pied ici sur une dalle, on va stimuler ici plusieurs de ces senseurs et qui permettent également de reconstituer ici la marche. Et donc on avait utilisé ces deux systèmes ici pour les calibrer l'un par rapport à l'autre pour des raisons technologiques. Et qui donc ont été utilisés pour l'étude.
Alors ces 40 volontaires donc, que vous avez fait marcher littéralement, qu'est-ce que vous leur avez donné comme consigne dans l'appartement ?
Alors c'est une expérience, c'est une expérience de pseudo-laboratoire. On était dans un appartement, et comme vous l'avez dit, ce n'était pas une situation où on regardait naturellement les gens marcher chez eux. Ça fait partie du projet Walk at Home, cette partie-là. C'est la partie suivante, dont on reparlera avec grand plaisir à l'occasion. Là, c'est donc une expérience où on a demandé simplement à ces personnes, on les a équipées, Et puis ensuite, on les faisait partir du couloir de la chambre. Il faut visualiser un petit peu. C'est un appartement type avec deux chambres. Il y a un couloir qui dessert les chambres. Et de ce couloir, on les faisait entrer dans cette pièce à vivre qui était donc bardée de capteurs, traverser ici les obstacles à éviter pour aller sur la terrasse, faire un demi-tour sur la terrasse et revenir par le même chemin. Donc imaginez cette trajectoire, donc curvilinéaire, comme on l'a mentionné tout à l'heure. On rentre dans cette pièce, on va contourner un premier obstacle qui est la table de salle à manger, grosse, lourde, massive, ronde. On va contourner la petite table du salon qui est carrée, petite table basse, pour aller sur la terrasse, faire demi-tour et revenir par le même chemin. Donc une succession d'une quarantaine de trajectoires curvilinéaires, aller-retour, qui évitent ces obstacles.
Alors cette fameuse petite table basse que vous avez fait dans l'expérience, c'est aussi que vous l'avez déplacée. Pourquoi vous avez fait ça ?
On a en fait créé quelques conditions expérimentales, si vous voulez, qui ressemblent un petit peu à notre vie quotidienne quand on est à la maison. Donc une condition contrôle est celle que je viens de décrire. La condition de déplacement est donc à l'insu du sujet de la personne en train de marcher entre deux essais alors qu'elle est en train de faire son demi-tour qu'elle ne voyait pas de manière comme ça subrepticement on déplaçait cette table d'à peu près 20 cm. Donc pour créer un changement brutal, impromptu, non anticipé, pour voir comment ce déplacement-là, qui est donc cet obstacle qui est visuellement perçu par les marcheurs, eh bien, à partir de quel moment cet obstacle était détecté, comment on peut anticiper ici ce déplacement et quelles conséquences ce déplacement a sur cette trajectoire qui nous intéresse. Donc ça, c'était une des perturbations qu'on a introduites. Une deuxième perturbation était sonore. On va en reparler tout à l'heure.
Alors, vous dites justement que ces obstacles, ils agissent donc comme des répulseurs locomoteurs, alors que, par exemple, le frigo qui renferme le plateau de fromage, il va être, lui, un attracteur. Donc, comment s'articule la vision et la fonction locomotrice ?
C'est le problème fondamental ici. C'est-à-dire que si vous regardez chez vous, ces attracteurs, on les appelle des attracteurs parce qu'en physique, en mathématiques, on peut les modéliser comme des attracteurs. C'est des endroits qui nous attirent, mais ça a des fonctions particulières sur notre trajectoire. On est attiré, notre déplacement est attiré sur ces attracteurs. Et les répulseurs, c'est donc les obstacles dans l'appartement à éviter parce qu'on va s'y cogner les genoux, les hanches sur la table. Et donc, en fait, on est cerné d'attracteurs et de répulseurs chez nous en permanence. Le frigo vers lequel on va pour aller ouvrir la porte et prendre quelque chose à l'intérieur, le placard, la table où on va s'asseoir, une chaise est un attracteur parce qu'on va s'y asseoir, un livre sur une étagère est un attracteur, et puis le vase que l'on ne veut pas renverser dans lequel il y a des fleurs fragiles, la table sur laquelle on ne veut pas se cogner les genoux est un répulseur. Et donc en fait nos trajectoires à la maison sont forgées un peu entre ces attracteurs d'un côté, ces répulseurs de l'autre. Et si on transforme un attracteur en répulseur, qu'est-ce qui se passe ? C'est donc la question qui nous intéresse. Et le système visuel joue le rôle principal ici, puisqu'on perçoit ici les distances qui nous séparent des obstacles. On perçoit également les collisions à venir, on anticipe ces collisions à venir. Et le système visuel nous informe très tôt sur la présence de ces répulseurs et comment les éviter.
Alors justement, vous parlez de collision. La question suivante, c'est vous avez remarqué que les deux tables, la table haute et la table basse, n'induisaient pas la même distance de dégagement de la part des participants. Est-ce que ça veut dire qu'on ne contourne pas la table haute et la table basse de la même façon ?
La réponse est non. On ne contourne pas l'obstacle haut et bas de la même manière. Lorsque ces obstacles sont stationnaires, la table haute... C'est un répulseur, cette table haute, elle est dangereuse. On s'y cogne, on se fait mal sur cette table haute. Et donc, on la contourne avec une distance d'effacement, une distance qui est plus importante. Donc, on prend vraiment son espace. Ici, on la contourne pour pas se blesser. Et la table basse, lorsqu'elle est stationnaire, lorsqu'elle est immobile, elle est moins dangereuse parce qu'on peut, par exemple, l'enjamber si on fait une erreur, parce qu'on peut la contourner plus facilement. Et donc, on a bien observé cette différence chez tout le monde, là, de distance, entre la table haute un peu plus dangereuse, un répulseur plus fort, et puis la table basse plus facile à effacer lorsqu'elle est stable.
Alors, une autre différence que vous avez notée, c'est qu'il n'y avait pas le même trajet entre l'aller et le retour. C'était quoi les différences ?
Oui, c'est que c'est très intéressant cet aspect-là. C'est que l'aller est un moment où, si vous voulez, notre cognition, notre système cognitif est en alerte. On parcourt ce chemin, alors au début pour la première fois, et puis ensuite on le répète, on voit des apprentissages apparaître. Mais donc l'aller, nos centres perceptifs, cognitifs, notre attention sélective, focalisée, notre système visuel est très impliqué dans cet aspect-là. Et le retour opère plus dans une espèce de pénombre un petit peu plus psychique ici, où on fait moins attention, on est plus en contrôle automatique, si vous voulez, parce qu'on a vécu ce trajet une première fois, et donc le second est plus stable, plus homogène et moins soumis à ces perturbations.
Alors, vous avez également noté que la distance de franchissement diminuait au fil des répétitions, donc ce qui montre qu'avec le temps, on a tendance à se rapprocher des obstacles qui nous entourent. Ça veut dire qu'on s'habitue à la configuration des lieux, c'est ça ?
Absolument, et on s'habitue très vite. Je ne sais pas combien de fois vous avez déménagé.
Beaucoup.
Dans votre vie, disons, d'adulte, dans votre vie d'adulte. Parce qu'après, la partie de l'enfance, etc., le vieillissement, c'est la seule chose, mais dans votre vie d'adulte, vous avez déménagé et ce premier moment là où on prend contact avec son appartement, mais on prend contact de manière gestuelle, on l'incarne dans son mouvement, cet appartement, on s'en saisit, on se l'approprie.
On cherche le geste, l'interrupteur qui était là dans l'autre appartement mais qui n'est plus là.
Il n'est plus là, etc. Les répulseurs sont devenus des attracteurs, les meubles ont changé de place, etc. Et donc cette phase d'appropriation, elle est essentielle. Elle s'incarne dans notre geste, notre mouvement, notre œil joue un rôle essentiel. Et c'est une phase qui va surprenamment assez vite. Donc oui, on apprend. Et dans cette étude, ça se manifeste par ces distances d'effacement qui se raccourcissent au fur et à mesure que les essais avancent. Donc on a fait une vingtaine, une trentaine de répétitions par personne ici. Et très vite, on voit, de manière différenciée d'ailleurs en fonction des obstacles, qu'on se rapproche des tables. Autrement dit, le curvilinéaire ici qu'on a défini tout à l'heure, s'ajuste ici pour optimiser notre déplacement entre deux, on va dire, fonctions contradictoires. On va vers un but donné, donc on veut y aller souvent le plus vite possible, on veut être efficient, on va vers un endroit donné, et en même temps éviter les obstacles qui nous entourent. Et la meilleure optimisation de ces deux contraintes-là, on la voit dans l'écart qui nous sépare des tables, qui effectivement diminue avec le temps.
Alors, vous dites aussi dans cette publication que la marche transmet des informations distinctives sur le sexe, la personnalité, l'émotion, l'humeur. C'est un peu « dis-moi comment tu marches, je te dirai qui tu es ». Qu'est-ce qui différencie, par exemple, la marche chez les hommes et les femmes ?
À la maison, on ne sait pas. Dans la rue, on sait. Donc, ou dans le laboratoire, y a beaucoup d'études, effectivement, sur ces signatures ici, locomotrices, de qui on est. Donc la marche contient des informations sur effectivement notre genre. Un homme et une femme ne marchent pas tout à fait de la même manière, avec plein d'exceptions bien sûr, mais il y a quand même des tendances. Par exemple, le ratio entre la longueur des épaules et la longueur du bassin est inversé entre les hommes et les femmes, avec des exceptions encore une fois. Les ondulations des différentes articulations se font à des fréquences et des amplitudes qui ne sont pas les mêmes. Et donc, si je vous montre, par exemple, sur un écran, quelques-uns de ces petits points qu'on a utilisés ici pour enregistrer les déplacements, je vous montre simplement sur cet écran ces points en train de se déplacer immédiatement.
Vous savez
si c'est un homme ou une femme, immédiatement. Ces études ont été faites partout dans le monde depuis une trentaine d'années. C'est des choses qui sont bien connues. Et de la même manière, si je vous montre ces petits points, on les appelle les point light displays, ces petits points lumineux ici qui sont posés sur les articulations, uniquement vous montrer visuellement ces points, vous reconnaissez immédiatement un homme d'une femme, vous reconnaissez l'âge, ou en tout cas l'avancée en âge, les catégories d'âge, vous reconnaissez la motivation, vous reconnaissez la personnalité, on a des traces de la personnalité dans la façon dont on marche, mais vous les imaginez, vous êtes en train de marcher, vous êtes triste, vous êtes pas motivé, vous venez d'avoir une mauvaise nouvelle, tous ces phénomènes sociaux, cognitifs et psychologiques pénètrent notre biologie, notre physiologie, nos interactions neuromusculaires et se traduisent dans notre façon de marcher.
Alors vous avez justement essayé de prendre en compte un concept plus large, celui de bien-être, dans cette étude. Donc déjà, comment vous l'avez défini dans cette étude et comment vous l'avez mesuré surtout, si c'est possible ?
C'est un problème compliqué, le bien-être. Il y a autant de définitions que de chercheurs sur le thème, puisque le bien-être, il reflète à la fois des aspects psychologiques, des aspects motivationnels, mais aussi des aspects de fatigue physique, qui sont évalués par des métriques, des variables assez différentes, des aspects sociaux qui sont également partie du bien-être. Donc il y a des questionnaires de bien-être, il y en a plusieurs, et en général, ces questionnaires, ils regroupent donc des items, des parties sur évaluer le bien-être social, le bien-être psychologique, le bien-être physique, le bien-être lié à la fatigue. Donc on a utilisé ces questionnaires classiques qui existent, et donc on a fait passer ces tests de bien-être ou ces questionnaires de bien-être avant l'étude, donc dès l'arrivée ici des cobayes, entre guillemets, ici dans cette expérience, et puis après l'étude, pour voir si on observait des différences avant-après.
Et c'est là où le Covid, juste un petit mot, intervient donc dans votre protocole. C'est que les gens, finalement, ils étaient tellement contents de se retrouver que ça a influencé, c'est ça?
Alors, on a eu beaucoup de surprises, effectivement, sur ces études de bien-être. Ça n'a pas très bien marché, pour être franc, parce que les gens étaient tellement contents
de sortir du confinement.
De se retrouver à quelques-uns. On était 3-4 dans cet appartement. Hein. Il y avait les expérimentateurs et puis la personne. Les gens venaient les uns après les autres. Ils ne venaient pas tous en même temps. Ça a duré un mois et demi, cette campagne à peu près, une personne par jour à peu près. Mais le fait d'avoir un contact ici social, d'être ensemble, y compris de participer à une expérience, a fait exploser positivement les scores de bien-être, un petit peu contre nos attentes vis-à-vis des hypothèses que l'on avait.
Alors dans ce concept de bien-être, vous évoquez aussi celui de confort et vous parlez un peu de confort architectural. Vous dites qu'il peut prendre plusieurs formes, acoustique, olfactif, luminaire, thermique. Et dans cette étude, on l'a évoqué tout à l'heure, vous êtes concentré sur le bruit. Comment vous avez fait au niveau du protocole ?
On a dans l'étude donc induit un bruit à haute intensité. Donc c'était le son d'un aspirateur, 80 décibels, c'est quand même assez fort, qui était localisé à un endroit précis. Et si vous voulez, on a considéré cette source sonore, elle aussi, comme un répulseur. Avec cette idée, vous le sentez intuitivement, cet aspect-là. C'est-à-dire que quand on marche et qu'on s'approche d'une source sonore, on a tendance à vouloir l'éviter. Donc notre déplacement change. Donc notre locomotion est affectée par cet écart. On veut s'écarter de la source sonore. Et à l'inverse, lorsqu'il y a des bruits qui nous attirent, une petite musique, une fontaine d'eau, etc., on peut être attiré par des bruits. Et cette idée de confort, donc on l'a manipulée de cette manière-là, de manière assez simple, justement par une source sonore, avec cette idée que cette source sonore allait modifier les trajets locomoteurs. Et pour revenir un tout petit peu sur cette notion de confort, c'est vrai qu'il y a des études, par contre, ici, qui ont été menées en France et puis dans d'autres pays. Je pense à des ateliers d'architecture à Grenoble ou aux ateliers d'Île-d'Abo, par exemple. Des structures expérimentales ont été construites pour manipuler ce confort ou ces ambiances. C'est parfois un terme qu'on utilise, le terme d'ambiance sonore, où on peut arriver à guider les trajets locomoteurs des gens par les bruits que l'on met dans ces architectures. Et on le vit dans les centres commerciaux, par exemple, ou quand on va dans un fournisseur, un magasin de meubles, les sons, les musiques, ici, les sons naturels sont utilisés pour orienter un petit peu les trajets locomoteurs. Donc nous, dans cette étude, c'était un seul son posé à un endroit bien, bien précis, qui était une source répulsive, ici, sonore de 80 décibels.
Et ça n'a pas très bien marché non plus.
Et ça n'a pas très bien marché non plus, cette partie-là, parce que, honnêtement, on s'est un peu fourvoyé, je pense, sur le type de son. En fait, on a eu un bruit d'aspirateur. Et les personnes qui sont venues et nous ont à peu près toutes raconté la même chose, c'est « oui, mais moi, ce bruit d'aspirateur chez moi le samedi matin, c'est normal, c'est pas vraiment un répulseur, je suis habitué à mon bruit d'aspirateur ». On aurait mis le son d'un Airbus au décollage, probablement ça aurait eu l'effet du marteau-piqueur que l'on évite quand on marche dans la rue. Et donc ça, c'est une manipulation qui n'a pas très bien marché.
Alors en une minute, parce qu'on est presque au bout de l'interview, est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion à quoi elles peuvent servir du coup ces études, par exemple dans les maisons de retraite peut-être ou
C'est ça, ces études, elles sont... d'abord, il y a des questions de recherche fondamentales ici, la plasticité visuelle, comment anticipe les obstacles, et puis du point de vue des applications, il y a deux pistes, effectivement, c'est... apprendre à vivre avec l'avancée en âge dans son appartement, avec des recettes qui peuvent être, ou des conséquences en termes de, il faut que les obstacles restent stationnaires, il faut de l'espace autour des obstacles imposants ici pour que ces trajets locomoteurs puissent être réalisés de manière stable. Et puis, pour les architectes, pour les équipementiers, etc., il y a toutes sortes de résultats qui peuvent être exploités dans l'avenir.
Un grand merci Benoît Bardi, et donc on vous reçoit bientôt pour parler de la deuxième phase, c'est ça ?
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Merci, et on passe maintenant à notre séquence reportage, Aline.
Oui, nous clôturons notre série à la Station méditerranéenne de l'environnement littoral avec son directeur Sébastien Mass, qui est aussi responsable de la plateforme d'expérimentation en écologie marine Medimer, un dispositif unique en France et sur le pourtour méditerranéen qui propose une expertise scientifique de pointe dans la réalisation d'expérimentations en conditions contrôlées dans le domaine de la biologie marine.
On a différentes enceintes expérimentales. Ça part du tout petit, des Erlènes, jusqu'au très 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 grand, au-delà de 1 mètre cube, on appelle ça des mésocosmes. Et en dessous de 1 mètre cube, c'est des microcosmes. Alors on va commencer par les mésocosmes. Donc les mésocosmes, c'est des enceintes supérieures à 1 mètre cube, dans lesquelles on prélève une masse d'eau, donc on isole une masse d'eau et on fait des forçages dessus. C'est ce qu'on a sous les yeux. En fait, ça, c'est les structures pour soutenir les enceintes.
D'accord,
en fait,
parce les enceintes... que je décris juste que c'est ce qu'on a sous les yeux. Ce sont des espèces de cages en acier cylindrique, c'est ça ?
Exactement. Bah, ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif, c'est une plateforme qui est flottante de 4 mètres sur 4 mètres qui permet de maintenir des enceintes. Donc, c'est des sacs, des grands sacs en polyéthylène, qui sont utilisés une fois pour chaque expérience, on change de sac, et qui permettent d'isoler une masse d'eau d'un volume différent. Donc ça peut être, si le sac fait 2 mètres cubes, donc ça va être un volume de 2 mètres cubes, et on peut aller jusqu'à 15 mètres cubes. À partir de là, donc, on isole la communauté, l'écosystème, et on fait des forçages. Donc forçage, augmentation de la température, diminution du pH, donc on simule l'acidification des océans, ça peut être simulation de crue, donc on apporte de l'eau douce chargée en matière organique dissoute et on regarde comment l'écosystème va répondre. Et ces résultats, les données vont permettre aux chercheurs de faire des prédictions, de voir comment les écosystèmes vont réagir aux changements globaux.
Et alors à côté des structures de cuves dont on a parlé tout à l'heure, il y a des gros tuyaux noirs, ça fait partie aussi
oui.
Des...
Oui, donc ça c'est la plateforme, c'est les plus gros dispositifs, c'est des plateformes de 4 mètres sur 4 mètres qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire qu'on les installe au large, on en a 9, donc ça fait une énorme plateforme avec des batteries, puisqu'on a des capteurs à l'intérieur de chaque enceinte, pour mesurer en continu tout ce qui est paramètres physico-chimiques et biologiques. C'est transportable, donc c'est à la fois la lagune, on les a transportés en crête. Les autres petits mésocosmes, on les a déjà amenés en Arctique, on les a emmenés en Corse, on a fait des expériences en Scandinavie, donc en Suède, Finlande, Norvège. Au niveau français, on est des précurseurs de l'expérimentation en mésocosme. Et donc, on est dans des projets européens.
Parfait.
Ensuite, les cuves, enfin la cuve que vous avez là-bas, ça, c'est les nouveaux dispositifs qu'on va installer, je l'espère, l'an prochain.
Elle est beaucoup plus grosse que ce qu'on a vu jusqu'à présent, cette cuve. C'est quel volume ?
C'est 10 mètres cubes. On en a 12 et le but, c'est de faire des expérimentations qu'on ne peut pas faire sur les autres dispositifs puisque ces dispositifs sont directement dans le milieu. Ça veut dire que si on regarde l'impact des contaminants sur l'écosystème marin, on ne peut pas le faire sur ces dispositifs qui sont dans le milieu, parce que si le sac se perce, on pollue l'environnement. Là, ça va nous permettre de faire l'écotoxicologie, de voir l'impact de différents contaminants sur l'écosystème, donc sur la communauté, une partie de la communauté ou l'intégralité de l'écosystème. Alors normalement, si tout va bien, entre le permis construire et puis l'installation, ça devrait être installé en 2024 et opérationnel sûrement en 2025. Toutes nos enceintes expérimentales sont équipées de capteurs pour voir en temps réel comment l'écosystème réagit. Donc bien sûr, il n'y a pas des capteurs pour tout mesurer, mais au moins les paramètres de base. Au niveau des stations marines, à ma connaissance, on est la seule station marine sur un milieu transitoire, ça veut dire sur une lagune.
Donc là, pour les microcosmes, on revient à l'intérieur de la station. Et qu'est-ce qu'on a là? Vous avez ouvert un espèce de frigo
On a des incubateurs. Donc là, pour les microcosmes, on va plutôt travailler sur l'espèce ou une partie de la communauté. Et on va essayer de voir, en modifiant certains paramètres, comment va réagir l'espèce ou la partie de la communauté. Donc on augmente la température. C'est le même principe que les mésocosmes, sauf que là, on va cibler juste une partie de la communauté ou de l'écosystème.
Et donc vous êtes sur des volumes beaucoup plus faibles.
Exactement. Inférieur à 1 mètre cube. Là, on est sur du 100 ml, mais on peut monter jusqu'à 5 litres ou 10 litres, ou même sur des bacs de 600 litres, avec une partie de la communauté.
Et alors, c'est des expérimentations qui se font uniquement en laboratoire, pour le coup?
Oui, on peut le faire également en milieu in situ, c'est-à-dire qu'on enferme une partie de la communauté en enlevant certaines gammes de taille d'organismes, de micro-organismes, et donc dans des bouteilles, qu'on incube en milieu naturel, et après on récupère et on fait des analyses dessus.
Merci à la SMEL de nous avoir accueillis pour cette longue séquence de reportage. La semaine prochaine, changement d'ambiance, nous vous emmenons à M3P. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.